France Culture.
Bonjour le Book Club, j'ai lu le livre « Comment torpiller l'écriture des femmes » de Johanna Russ. Ce que j'en ai pensé, c'est que en découvrant les mécanismes qui ont étouffé l'écriture féminine au fil du temps, on découvre qu'il y a tout un monde littéraire auquel on n'a pas eu accès. Beaucoup de voix qui ont été silenciées. Ça génère pour moi beaucoup de remises en question sur la manière dont j'aborde la littérature. Mais c'est aussi très galvanisant, parce qu'il y a tout un monde de possibilités qui s'offre à nous, et on a l'impression d'être plus lucides sur le monde qui nous entoure.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le nombre de bons livres écrits par des femmes dépasse largement les estimations les plus optimistes. C'est la critique et écrivaine féministe américaine Joanna Russ qui le dit dans un essai paru en 1983 et traduit pour la première fois vers le français sous le titre « Comment torpiller l'écriture des femmes ». Dans ce livre qu'elle décrit comme monstre et démesuré, elle décrypte tous les mécanismes d'effacement, de découragement, de minimisation de l'écriture des femmes qu'elle ne veut pas exceptionnaliser mais dont elle veut faire un monde. 10 ans après la publication de son propre texte, Joanna Russ admettait les impensés de cette critique, à savoir la classe sociale et le racisme qui se rajoutent à tous ces processus. Elisabeth Lebovici signe une préface à ce texte que Cécile Hermelin traduit. Elles sont toutes les deux nos invitées. Comme chaque mardi, on retrouve ensuite Mathilde Wagman pour parler littérature jeunesse et elle tentera de nous dire pourquoi, selon elle, l'Atlas est LE livre pour enfants par excellence. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Comment torpiller l'écriture des femmes paraît donc aux éditions Zone. Bonjour Elisabeth Lebovici.
Bonjour.
Vous préfacez ce texte et le replacez notamment dans une perspective historique de cette critique féministe et littéraire. Merci beaucoup d'être là, bienvenue dans le Book Club.
Merci.
Et bonjour Cécile Hermelin.
Bonjour.
Vous traduisez ce texte pour le compte des éditions Zone et vous l'avez de fait côtoyé de près. Je parlais de cette forme qu'elle dit monstre et démesurée. On y viendra, vous qui avez plongé dans cette langue, mais dans un premier temps, il nous faut présenter Joanna Russ et peut-être dire ce qui se passe dans les années 80 au moment où elle publie ce texte, on va dire, dans le milieu théorico-critico-littéraire-féministe.
Oula ! Alors, en 83, lorsque paraît ce livre, elle a 46 ans. Bon, vous voulez que je vous raconte un peu sa vie
ou pas? Un petit peu quand
même. Un petit peu,
ouais.
Voilà.
Aussi alors, parce que quand même, pour de nombreuses personnes, c'est une rencontre, Joanna Russ,
en complètement, France. Bien sûr. Donc, elle est née en 1937, dans le Bronx à New York, dans une famille qu'elle dit elle-même juive, ashkénaze, non pratiquante. Et en fait, son enfance, c'est le moment de l'éveil à la culture scientifique. Hein, grâce à la bibliothèque de New York, qui est magnifique, hein, et qui a beaucoup de livres de vulgarisation scientifique. Hein, les ouvrages qui sont dans la bibliothèque de sa mère, qui est enseignante, etc. Et en fait, très très vite, hein, elle passe des concours comme ça pour produire comme ça des textes qui ont un rapport avec les sciences. Mais elle se dirige assez vite vers des études littéraires. Donc elle va à l'université, enfin l'université Cornell, et on dit toujours, c'est vrai, on dit toujours qu'elle a été donc l'élève de Nabokov, c'est pour sa dernière année d'études à Cornell, et elle quitte la littérature, elle s'engage vers l'étude des arts dramatiques à Yale University, et tout de suite, très très vite, très jeune, elle publie sa première nouvelle de science-fiction. Alors ça, c'est très important de dire que d'abord, Joanna Russ, c'est une autrice, c'est une autrice de science-fiction. Genre qui connaît d'ailleurs, dans les années 70-80, un renouvellement absolument mais incroyable. Bon, on y viendra après. Et donc, en fait, elle va avoir une sorte de triple activité qui va consister à écrire des... Bon, vous savez, dans la science-fiction, la fantasy, qui sont quand même considérés comme des genres tout à fait mineurs, mais qu'elle adosse, elle, complètement à la science...
Et à sa théorie d'ailleurs.
Et à sa théorie, oui, elle est vraiment, vraiment, vraiment intéressée par la science comme discours, hein, et comme possibilité théorique. Et donc, elle va adosser sa science-fiction à la science, mais elle va publier beaucoup, 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 beaucoup de nouvelles dans des tonnes de revues qui comme ça se pratiquent, peut-être encore tout, d'ailleurs encore toujours aujourd'hui, j'imagine. C'est quand même un genre qui n'a pas ses lettres de noblesse, quoi. C'est pas la littérature, hein. C'est une forme littéraire qui est quand même sous-évaluée. Je pense que, voilà, beaucoup d'arguments, et d'ailleurs le début de Comment torpiller l'écriture des femmes va évidemment faire appel à ce bouillonnement de la science-fiction. Et puis en même temps, ben voilà, il y a le féminisme est en train de naître, et enfin,
de renaître.
Et elle rentre assez vite dans un groupe de parole. Elle s'est mariée en 63, elle divorce tout de suite. Et elle va entamer un processus d'un coming out, in, out, assez long, dont elle sortira avec toutes ses armes de lesbienne, identité qu'elle affirmera très fort et très haut pendant de longues années. Et effectivement, pour en venir aux années 80, vous savez, c'est quand même, aux États-Unis et en France aussi d'ailleurs, une sorte d'éclatement, on pourrait dire, du mouvement des femmes qui a déjà éclaté en France en deux, comme on le sait, mais en tout cas aux États-Unis, y a cette idée du reproche qu'on fait toujours à la génération précédente. Donc la génération précédente est trop essentialiste pour une génération des années 80 qui serait plus constructiviste, plus déconstructiviste, on pourrait dire. Et au sein de ces tiraillements, qui traverse les mouvements féministes, il y a aussi cette querelle, ce conflit qui va traverser le discours et les actes aussi, qui est le rapport à la pornographie et au sexe.
Ce qu'on généralement on rassemble sous le débat pro ou anti-sexe, et voilà. C'est ça dont on parle quand on parle de ce débat, mais qui est un débat intellectuel et très violent quand même. Les affrontements sont très violents.
Absolument. Alors, il faut rappeler peut-être qu'aux États-Unis, bon, d'abord, il y a deux autres choses qui se passent. Hein. 83, Comment torpiller l'écriture des femmes sort, mais c'est aussi le moment où est isolé le virus VIH.
Et ça raccroche avec tout votre travail à vous en tant que critique, essayiste et les autres que vous visiez.
Voilà. Et aussi ce moment où on découvre les virus informatiques. Ça n'est pas sans rapport, peut-être. Hein. Et en tout cas, à ce moment-là, effectivement, il y a un certain nombre de féministes anti-sexe qui vont quand même se mêler de politique et produire des ordonnances.
Hein. Je voudrais juste qu'on prenne deux secondes pour rappeler ce qu'on appelle les féministes anti-sexe, oui. Milieu des années 80 aux États-Unis. Ce ne sont pas des personnes qui disent qu'il faut arrêter de faire du sexe.
Non.
Ce n'est pas du tout pareil. C'est vraiment un affrontement qui a lieu sur quel terrain, Elisabeth Lebovici ?
Bah sur le terrain public, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire, le regard, le cinéma, la rue est sous l'égide d'un male gaze qui
un regard masculin qui
est un viol, on pourrait dire, pour les femmes, et donc le féminisme anti-sexe réclame des ordonnances assez sévères contre toute production visuelle, contre toute action, contre tout lieu où les femmes se sentiraient dominées. Hein, on peut dire que c'est à peu près ça.
La pornographie.
Dont la pornographie. Et ce qui fait vraiment problème. Et au contraire, les féministes pro-sexe, elles, se disent « mais non ». La pornographie, il faut se l'approprier, il faut retourner l'insulte, si j'ose dire, se l'approprier et nous produire pour nous des choses qui soient excitantes, qui soient intéressantes, qui soient visuellement, qui nous correspondent visuellement.
Et Joanna Russ, elle se situe comment dans
alors,
ce débat-là ?
Elle est pro. Donc, elle va se rapprocher donc de ces femmes qui, c'est un événement assez connu, donc au collège de Columbia University qui s'appelle Barnard College, a lieu en 1982, je crois, un grand événement qui est une sorte de réunion de toutes les femmes pro-sexe qui vont travailler, faire des ateliers. Comment on peut changer effectivement cette domination masculine sur le regard? Comment on peut produire, nous, nos propres images, finalement, et nos propres textes? et sous l'égide d'une femme qui s'appelle Carol Vance. Et autour du Collège Barnard, il y a effectivement les féministes antisexes qui défilent et qui manifestent. Donc là, il y a vraiment des affrontements brutaux. Finalement, on ne fait jamais avancer les choses qu'avec le conflit. Hein. Joanna Ross, je pense tout à fait d'accord. On voit comment, effectivement, Joanna Ross se situe parmi ces questions. Elle se situe, elle prend parti, elle l'écrit.
Et puis, vous avez commencé par dire qu'à ce moment-là, elle a 46 ans, Elisabeth Lévovici, donc ça veut dire aussi, et vous le mentionnez dans votre préface, qu'elle a un bagage, qu'elle a aussi une vie, elle, en tant qu'autrice, en tant que critique, en tant qu'essayiste, elle a aussi éprouvé des choses dans la société américaine, les processus de découragement, d'effacement. Elle peut en témoigner de son propre endroit.
Absolument. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire à propos de la littérature de science-fiction et de fantasy, etc. C'est que la littérature de science-fiction particulièrement a ses réunions, ses meetings, encore aujourd'hui. Il y en a plein en France aussi. Et donc, il y a un monde particulier qui s'agglutine autour dans ces réunions qui s'appelle les fans. Et Joanna Russ, ce qui est fantastique avec elle, c'est qu'elle est à la fois une universitaire, elle enseigne, et qu'elle est à la fois une écrivaine plus ou moins reconnue, mais elle est aussi entourée par des fans. Et je pense que c'est très important par rapport à cette invisibilité. Elle a ce lieu de visibilité qui est le lieu d'une sorte de communauté, dans lequel, je l'ai lu en tout cas, elle peaufine aussi ses armes. Donc il y a aussi ce rapport avec un public, une audience.
Oui, ça veut dire qu'elle éprouve aussi ce que ça fait de n'être pas marginalisée, de n'être pas muette, de n'être pas invisibilisée. Alors c'est pas tout à fait pareil que de se trouver dans un, par exemple, canon littéraire dominant. C'est pas la même chose, ces zones-là de fans. Mais néanmoins, elle pourrait se dire, tiens, qu'est-ce que ça me ferait en tant qu'autrice si j'étais à cet endroit-là?
Et alors, vous avez raison de dire cela, parce que les années 80, c'est aussi quand même ce grand moment de déconstruction, de critique, on pourrait dire, d'essayer de mettre au jour des structures de domination dans le champ littéraire, dans le champ artistique, dans le champ politique aussi. Et y a une dernière chose dont j'aimerais parler aussi pour les années 80, si vous voulez bien. Qui sont quand même ce moment, parce que ça n'est pas pour rien que Donna Haraway, quand elle écrit le manifeste Cyborg, cite le nom de Joanna Russ. Hein. Quand elle fait sa grande péroraison sur ce qu'elle a, comment elle a pu constituer cette chose que peut être ce que nous sommes tous, des cyborgs. Les écrits de Octavia Butler, de Samuel Delaney et de Joanna Russ lui ont servi. Donc c'est ce grand moment quand même où il y a la science-fiction est quand même reconnue. Enfin, cette science-fiction qui a émergé dans les années 70 et qui est une science-fiction complètement incroyable parce qu'elle bouleverse complètement les genres, elle bouleverse complètement les espèces, les humains, les non-humains. Elle est vraiment à la pointe, on pourrait dire, d'une critique radicale de ce qui constitue l'identité, en fait. Et ce n'est pas pour rien, me semble-t-il, c'est ce que j'essaye de dire dans ma préface, que les années 80... Et Joanna Russ arrive au moment où Donna Haraway et Sandra Harding d'abord essayent de penser la notion de savoir situé. C'est-à-dire tout d'un coup qu'il n'y a plus d'individus abstraits dans la littérature, d'auteurs abstraits dans la littérature.
On est pris dans des contextes.
On est pris dans des contextes. Et en particulier dans des contextes de genre. Et dans des histoires. Donc ça a une historicité, c'est une construction. Et il me semble que cette amitié entre Joanna Russ et ses livres d'un côté, et ce livre d'un côté, on pourrait dire, et de l'autre côté, Sandra Harding et Donna Haraway, qui dans le champ scientifique essayent de penser, effectivement, de concrétiser les sujets de la science, et ben là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe.
Parce qu'il faut bien dire, Elisabeth Lebovici, que on va pas parler aujourd'hui d'un texte de littérature de SF. C'est pas ça. C'est vraiment, même si au début, il y a des espèces de personnages, les glottologues, dont on pourrait dire qu'ils se rattachent à ça, mais c'est pas une littérature de l'imaginaire aujourd'hui. C'est vraiment un essai. Alors, comment est reçu le texte de Comment torpiller l'écriture des femmes dans ce milieu-là, à ce moment-là, aux États-Unis?
Quand on lit les critiques, j'en ai lu quelques-unes, pas terriblement bien, il faut bien le dire.
Mais c'est reçu, ça existe.
C'est reçu, absolument, c'est reçu. Sauf que, Cécile, tu me corrigeras, elle met quand même un temps monstrueux à l'écrire et à le publier.
Tout à fait, oui, c'est plusieurs années, et puis elle écrit sur plusieurs années, elle rajoute des parties au fur et à mesure, donc c'est très compliqué manifestement, et elle le dit pour elle. Alors justement, c'est intéressant, peut-être on peut réfléchir aux raisons qui la font écrire pendant des années, parce que là encore, c'est l'idée d'un contexte d'écriture, et de la forme que prend finalement ce livre-là, dont je disais en introduction qu'elle-même dit qu'il est monstre et démesuré. Comment est-ce qu'on peut parler de cette forme-là?
C'est effectivement assez compliqué parce que ce concept de livre monstre est tout à fait, elle l'a parfaitement qualifié elle-même. En fait, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit quand j'y pense, c'est foisonnant. Il y a vraiment, ça part dans tous les sens, à la fois positivement et négativement. C'est-à-dire que parfois, on se perd un petit peu dans des méandres et en même temps, c'est une pensée extrêmement riche qui a des implications sur des domaines, qui va très très loin, bien plus loin que le sujet de. D'ailleurs, du canon littéraire, de la littérature anglophone ou de la littérature tout court. Et puis, c'est effectivement un livre écrit quand même sur le temps long, ce qui fait qu'elle a le temps aussi de revenir sur sa propre pensée. Toute la dernière partie du livre où il y a vraiment... D'ailleurs, c'est assez drôle parce que finalement, il y a un épilogue, et puis après l'épilogue, il y a une note de l'autrice, et puis après la note de l'autrice, voilà, il y a une postface avec un journal de citations. Donc effectivement, entre le début et la fin de l'écriture, il y a vraiment un cheminement de pensée aussi qui s'étoffe et qui se complexifie, notamment sur la question de l'intersectionnalité, des marges et du centre, de toutes ces questions-là qui sont pourtant un peu dès le départ en germe, mais qu'elle affine au fur et à mesure.
Sur la langue, Cécile Hermelin, vous qui l'avez traduit ce texte-là, moi j'ai été assez frappée par le côté un peu... dynamique, quoi. Il y a quelque chose de drôle aussi parfois. On sent qu'il y a un côté assez concret. Elle a envie de nous faire comprendre quelque chose.
Oui. Je pense que ça vient. Déjà, c'est pas qu'une universitaire, évidemment, c'est quand même une autrice littéraire au départ. Donc il y a cette. Je pense qu'elle est un peu prise entre ces deux casquettes, entre guillemets. Et c'est vrai que. Du coup, la forme est pas classique pour un essai, disons. Elle-même, elle utilise plutôt vers la fin le concept du vernaculaire, et je pense que c'est assez central dans son écriture parce que elle le dit elle-même à la fin aussi. Justement, elle parle du fait que beaucoup d'essais féministes de cette époque-là sont écrits pas forcément par des universitaires, pas forcément par des chercheuses, mais par des musiciennes, par des artistes, etc. Parce que elles sont bien obligées de faire le travail elles-mêmes, puisque personne ne le fait à leur place. Et donc, je pense qu'il y a ce côté... je dirais presque, vous parliez du jeu et du nous, il y a cette espèce de volonté de créer une forme de sororité, même si on n'utilisait pas forcément ce terme-là à l'époque.
Mais aussi par sa pratique de la citation, le texte en est truffé, passe son temps à se référer. Ouais. Alors, dans ses développements théoriques, elle se réfère à d'autres critiques féministes, mais en plus, elle passe son temps à citer des textes ou bien des autrices qui ont été effacées, découragées, qui se sont abîmées, voire suicidées, ou alors des hommes qui les auraient découragées, amoindrie. Mmh. Et elle, on sent qu'elle a, c'est un peu son atelier de travail, ce bouquin, quand même.
Oui, bah complètement. Et elle le revendique pratiquement. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a accumulé des centaines et des centaines de pages de notes. Et d'ailleurs, effectivement, à la fin, c'est un florilège de citations directes. On y reviendra peut-être, mais enfin, voilà, qu'elle ne souhaite pas analyser ou suranalyser, justement, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas forcément la meilleure, la mieux placée pour le faire. Mais c'est vrai que tout au long du livre, on en parlait rapidement avec Elisabeth juste avant l'émission, il y a aussi peut-être ce côté de légitimité finalement qui revient, qui est... Alors là, c'est très hypothétique, mais je pense qu'elle n'a pas forcément envie de parler à la place des autres, et que donc il y a beaucoup de citations aussi, parce que c'est évidemment des illustrations parfaites. Enfin, c'est vrai qu'il y a des citations qui sont tellement savoureuses ou tellement atterrantes que ce serait dommage de pas, enfin, d'en faire l'économie. Et puis ce côté patchwork de citations, ça permet aussi de créer justement cette tradition qu'elle revendique.
1983, c'était il y a 42 ans, Elisabeth Lebovici. Nous, on arrive un peu en retard en France pour traduire ce texte-là, aux éditions Zone, par Cécile Hermelin. Qu'est-ce que ça raconte, le fait que ce texte-là débarque en France 4 décennies plus tard?
On a l'habitude, non? je crois qu'il en est... Oui, ça raconte aussi quand même peut-être une réception en demi-teinte, hein, quand même. Mm-hmm. Peut-être aussi
à ce moment-là, il y a 40 ans.
Ouais, à ce moment-là, parce que vous essayez de le dire toutes les deux tout à l'heure, bon, il y a quand même, on a l'impression qu'effectivement, elle se coltine un boulot qui n'a pas été, qui n'est pas fait, et c'est pas du tout universitaire non plus, c'est pas du tout qu'elle... Au pire ou au mieux, ça me fait penser au deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Cette espèce d'accumulation de choses comme ça. L'idée, je vais vous montrer que, voilà, que j'ai raison et je vais accumuler les trucs. Et
les preuves,
voir, les preuves, ouais, exactement. Ouais. Mais quand même, à la fin, moi, ça, j'adore quelqu'un, une autrice comme ça, qui dit à la fin, si vous aimez pas mon livre, vous avez qu'à l'écrire.
Mmh. Et donc, elle dit work in progress, le chantier est en cours, allez-y, faites le boulot.
C'est un chantier littéraire, d'un certain point de vue, pour penser à celui de Monique Wittig. Et quand même, il y a peut-être un parallèle à faire d'ailleurs avec Monique Wittig, qui finalement, dont la reconnaissance actuelle cache aussi quand même la méconnaissance pendant de nombreuses années, sinon les aficionados et les...
Donc vous nous diriez que ça nous parle à la fois de la un peu impossibilité d'être entendu tout à fait avec la bonne oreille il y a quelques décennies, que ce soit pour Wittig ou que ce soit pour John Harris, mais aussi, peut-être d'un point de vue plus optimiste, Elisabeth Lebovici, des oreilles un peu plus ouvertes en 2025.
Mais ça, c'est évident. Non, mais ça, c'est absolument évident. Il tombe à pic. Il tombe à pic pour dire deux choses absolument contradictoires qui sont « ça n'a pas changé ».
Franchement, il y a beaucoup de choses dans ce texte-là qu'on pourrait actualiser, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Voilà. D'autres personnes pourraient dire « ça a changé » puisqu'il est traduit.
Mais on va essayer de dire les deux choses.
Voilà, exactement.
Allez, on va essayer de dire les deux choses. On va parler de ce livre de John Harris, « Comment torpiller l'écriture des femmes ?» juste après cette chanson de Lady Ray, musicienne originaire de Virginie. C'est ma chanson préférée de son dernier album. L'album s'appelle « Cover Girl ». Et sur ce titre, elle se demande « Où pourrais-je bien être quand je me trouverai enfin, je vais briller et laisser toute cette merde derrière moi ?»
to get back. I've been fighting hard to get back. I've been praying hard to get back.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Comment torpiller l'écriture des femmes ? À cette vénéneuse et ironique question, votre Book Club répond cet après-midi par un véritable manuel d'effacement, de découragement, de minimisation de l'écriture féminine paru initialement en 1983, rédigé par une grande figure de la critique féministe américaine, Joanna Russ, dont on parlait à l'instant, et tout juste traduit vers le français. Joanna Russ fait la liste des procédés, toutes ces procédés et aussi toutes ces phrases qui, après avoir empêché, découragé les autrices de publier ou même d'avoir imaginé pouvoir le faire, dévaluent leur travail jusqu'à le faire disparaître. Je la lis. Elle ne l'a pas écrit. Elle a écrit, mais elle n'aurait pas dû. Elle a écrit, mais regardez sur quoi elle écrit. Elle a écrit, mais elle n'est pas réellement artiste et son œuvre n'est pas vraiment sérieuse, n'appartient pas au bon genre littéraire. Bref, ce n'est pas vraiment de l'art. Elle a écrit, mais elle n'en a écrit qu'un seul. Elle a écrit, mais l'intérêt, la postérité de ce qu'elle a écrit ne repose que sur un aspect très spécifique. Bref, elle l'a écrit. Voyez bien comment elle fait exception à la règle. En effet, on n'a pas parlé de cette incroyable couverture mythique qui est reproduite, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, au tout début du livre dans la publication française, où il y a la liste comme ça de toutes ces phrases qui viennent minimiser, rendre quasiment impossible la publication des femmes. Joanna Russ inscrit cet effacement, cette diminution, ce découragement dans une perspective historique, notamment en citant là, par exemple, Rousseau et Stendhal.
La peur de paraître indécente et d'en devenir moins aimable, au sens littéral du terme, peut également saborder, dès le plus jeune âge, la puissance créatrice. En 1753, Lady Mary Wortley Montagu demande à sa fille Lady Bute de recommander à sa petite fille de dissimuler tout savoir qu'elle maîtrise avec autant de soin qu'elle le ferait pour cacher une difformité ou une claudication puisque les hommes se sont accaparés la gloire. Selon Rousseau, une femme au bel esprit est le fléau de son mari, de ses enfants, de ses amis, de ses valets, de tout le monde. Elle commence toujours par se faire homme. Au dehors, elle est toujours ridicule et très justement critiquée. On sait toujours quel est l'artiste ou l'ami qui tient la plume ou le pinceau quand elle travaille. Cette charge universelle de Rousseau allie déni de la puissance créatrice et accusation d'anormalité, se faire homme. Stendhal, quant à lui, est plus bienveillant que dénonciateur, mais le message reste le même. Une femme ne doit jamais écrire que des œuvres posthumes à publier après sa mort. Imprimer pour une femme de moins de 50 ans, c'est mettre son bonheur à la plus terrible des loteries. Si elle a le bonheur d'avoir un amant, elle commencera par le perdre.
On pourrait, comme vous le disiez, Elisabeth Lebovici, en entendant ces deux extraits de Rousseau et de Stendhal, dire « mais ça, c'était avant ». C'est avant que l'on disait ça, c'était avant que c'était impensable pour les hommes que des femmes se mettent à écrire. C'était le fléau, une femme pensante, et puis c'était l'idée qu'elle puisse se rendre moins aimable, perdre son amour, perdre sa famille. Ça appartient à l'ancien temps. Ce que montre Joanna Russ, c'est simplement une sorte de construction historique, mais qui va jusqu'au plus contemporain de son écriture.
Ben, c'est exact. C'est-à-dire que c'est pas... Ce qui est formidable, je trouve, avec le livre, c'est que c'est pas un complot. C'est une structure. C'est structurel. Et donc, effectivement...
C'est un système.
Voilà, c'est un système. Et ce système-là, effectivement, il fait... Ben, il est constitué d'échos, comme ça, dans le temps. Et effectivement, à Rousseau, Stendhal, eh bien, on a des tas de gens à rajouter. On pensait tout à l'heure à Annie Ernaux, quand elle a reçu le prix Nobel. Bing.
Hein, c'était... Les attaques étaient d'une violence extrême.
Et c'était les mêmes. Donc, il y a effectivement cette récurrence. Ce système est toujours là, tant qu'on ne l'a pas...
Donc, ce qu'elle essaye de faire, c'est rentrer dans les rouages de ce système. Voilà. Et elle le fait avec humour, mais ou et méthode. Elisabeth Lévovici, on peut dire qu'elle fait une sorte de typologie de tous les procédés, conscients, inconscients. D'ailleurs, elle dit attention quand on dit qu'ils sont inconscients. En fait, on est trop sympa. En réalité, on ne peut pas être complètement ignorant de ce qu'on fait quand on est la classe dominante et la classe masculine. Alors, quels sont ces procédés et par quelle méthode elle les énumère, Elisabeth Lévovici?
Eh ben, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, elle les énumère en citant un certain nombre de femmes qui écrivent et qui racontent ce à quoi elles ont eu affaire, et cela du XVIIe siècle, quand même, jusqu'à la fin du XXe. Donc ça, c'est quand même absolument fascinant. Donc c'est ça qui est très beau, c'est donc non seulement elle cite ces femmes, elle donne leur nom, mais en plus, elle les cite réellement. C'est-à-dire qu'elle explique, avec les mots de ces femmes, ce à quoi elles ont eu affaire.
Par témoignage ou par extrait de texte quand ça s'y prête. Enfin, on entend ces femmes dire le réel de leur empêchement, de leur effacement, de la dissuasion, quand elles ne disent pas leur suffit d'avenir parce qu'il n'y a plus rien de possible autre que de mettre fin à ces jours.
Voilà, il y a cela. Et puis de l'autre côté, elle se prend aussi elle-même, enfin c'est cette fameuse auto-histoire, elle se prend aussi beaucoup elle-même comme exemple, parce qu'elle aussi, elle a eu affaire à tous ces mécanismes d'invisibilisation. Et donc ça, je trouve ça absolument fascinant. C'est justement, les citations-là viennent pour appuyer cette mise à nu du système, finalement.
Alors, cette mise à nu du système, j'en reviens, Cécile Hermelin, à la structure du texte. Je disais tout à l'heure, ça m'a presque fait... Parce qu'elle autorise à ce qu'on rigole de ça. Alors peut-être qu'on a la possibilité d'en rire là en 2025, mais ça m'a presque fait penser à une sorte de jeu vidéo d'aventure. C'est-à-dire, tu passes un niveau, par exemple le premier niveau, ça pourrait être juste être capable d'imaginer jeune femme ou moins jeune femme que tu peux écrire. Si t'as passé ce niveau de pouvoir l'imaginer, alors peut-être tu te mets à ta table et puis tu commences à écrire. Si vraiment t'as passé le niveau de t'as commencé à écrire alors que déjà t'étais très empêchée, tu peux te dire que peut-être tu vas te déplacer pour trouver un éditeur, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire comme ça presque la typographie qu'elle fait?
Déjà, dans la structure même du livre, effectivement, il y a plusieurs chapitres qui, à chaque fois, décrivent un processus pour torpiller l'écriture des femmes. Et ce qui est assez frappant, effectivement, en termes de structure, c'est que souvent, le chapitre suivant commence, par exemple, le premier s'appelle Interdiction, donc... On y parle notamment du fait que les femmes n'ont pas de temps, parfois pas de papier, tout simplement pour écrire parce que c'est trop cher. Enfin voilà, des choses extrêmement
pratiques.
Voilà, qu'elles n'ont pas accès à l'éducation pendant très très longtemps. Enfin voilà, des choses pratico-pratiques. Et le deuxième chapitre qui s'appelle Mauvaise foi commence par et pourtant elles écrivent. Voilà. Et donc à chaque fois comme ça, on passe d'un chapitre à l'autre en disant bon bah voilà comment on a pu empêcher les femmes d'écrire. Sur un critère, et puis on passe au suivant. Donc,
parce que ça résiste, le désir d'écriture reste suffisamment fort pour que ça résiste.
Voilà, et donc du coup, notamment le troisième chapitre commence par que faire une fois qu'une femme a écrit quelque chose. Donc à chaque fois, on se dit, bon, bah effectivement, elle a passé un niveau, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer de plus pour l'empêcher quand même d'écrire ou pour faire taire sa voix. Et j'avoue que là-dessus, le côté « elle a écrit, mais elle n'en a écrit qu'un » est particulièrement vicieux, puisque c'est souvent, en fait, complètement faux. Mais on va, dans une anthologie, mettre un poème d'une femme qui a écrit des centaines, voire des milliers de poèmes, en disant « bon, bah voilà, elle était cantonnée à ce petit mouvement, alors qu'elle a fait complètement autre chose ». Même chose pour Virginia Woolf, qui a été qui est énormément citée dans le livre, voilà, qui est extrêmement importante, qui est un peu un point de départ en fait du livre aussi.
Donc il y a elle a écrit, mais elle en a écrit qu'un. Ouais. Elle a écrit, mais regardez sur quoi elle a écrit. Elisabeth Lebovici, ça c'est intéressant, c'est-à-dire une fois que en effet la femme a écrit, qu'elle a réussi à publier, qu'on a arrêté de douter que c'était elle qui l'avait écrit, parce qu'il y a tout un processus qui vient douter du fait même qu'elle a écrit. Alors si on est vraiment obligé d'accepter qu'elle a écrit, que le texte tient la route, regardez sur quoi elle a écrit.
Moi, j'avais été très frappée par Marie McCarthy, parce qu'elle est journaliste, alors elle est dans la rédaction d'un magazine, et elle raconte que, bon, on l'admet à l'intérieur de ce magazine parce que elle a supposément été la petite amie de quelqu'un qui a pu, la faire entrer. Et puis après, on lui refile la rubrique théâtre, parce que soi-disant elle est mariée avec un acteur, et en fait, mais de toute façon le théâtre c'est rien dans ce magazine. Voilà, vous voyez cette diminution successive comme ça, et vous voyez sur quoi elle écrit. Bah oui, elle écrit sur le théâtre, c'est rien, quoi. Voilà, c'est pas la politique, c'est pas le monde, ça va pas changer le monde, etc., etc. Et c'est sans arrêt, ça se pose sur, vous voyez, elle écrit sur des choses domestiques, elle écrit sur le le corps.
C'est même très intéressant la manière dont ça va jusqu'à la forme littéraire.
Ouais. Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? À un moment donné, elle propose vraiment une analyse de la façon dont les textes eux-mêmes, comme ils sont composés, sont dévalués par leur composition, Elisabeth Lebovici. En tant que critique littéraire.
Oui, absolument. C'est-à-dire, effectivement, vous voulez dire la composition graphique ?
Oui, composition graphique, mais même aussi, c'est-à-dire des textes qui vont pas être parler très fort, très fort. Enfin,
voilà. Ce sont des petits livres. Ce sont des petits livres. C'est toujours le. Vous savez, il y a une marque, je crois, de vêtements qui m'a toujours énervée. Et quand on parle des femmes, c'est toujours le petit. C'est dans cet ordre d'idées. Il y a toujours, vous avez une petite robe, vous avez un petit, on va mettre un petit livre. C'est vraiment une diminution au sens littéral du terme, là, en l'occurrence.
Et dans le langage. Alors, on va entendre une des tentatives qu'elle fait pour essayer d'expliquer, une fois qu'elle a énuméré tous les procédés de système, de structure, pour effacer, diminuer, décourager l'écriture des femmes. Elle se demande, mais en fait, pourquoi ?
Les techniques visant à invisibiliser la vie des femmes et à dénigrer leur écriture opèrent en supprimant le contexte. L'écriture est séparée de l'expérience, les femmes qui écrivent sont séparées de leur tradition littéraire et isolées les unes des autres, le public est séparé du privé, le politique du personnel, le tout servant à faire respecter un ensemble de normes supposées absolues. Or, ce qui fait peur dans l'art noir, féminin, chicano, c'est qu'il remet en question l'idée même d'objectivité et de normes absolues. Ceci est un bon roman. Bon pour quoi ? Bon pour qui ? Un des aspects cauchemardesques pour le groupe détenteur du privilège est qu'il ne reconnaîtra pas cet art autre, qu'il sera incapable de le juger et que la supériorité du sens esthétique et du bagage scolaire dont disposent le critique et l'artiste détenteur du privilège disparaîtra d'un seul coup. L'autre facette de ce cauchemar est que ce qu'ils trouveront dans cet art autre leur sera non pas tant incompréhensible que bien trop familier. En effet, la vie des femmes est la vérité enfouie de la vie des hommes, la vie des personnes de couleur est la vérité enfouie de la vie des blancs. La vérité enfouie, pour ce qui est des riches, concerne ceux dont ils tirent leur argent et la façon dont ils l'obtiennent. La vérité enfouie de la sexualité normale est le privilège accordé à une seule forme d'expression sexuelle, et les vertus et les terreurs imméritées que cette distinction sert à plaquer sur les identités. Longtemps, la sagesse populaire a épousé cette idée étrange et erronée que le soleil tournait autour de la terre. Cette croyance a été remplacée par la notion encore plus étrange, tout aussi populaire et tout aussi erronée, que la terre tourne autour du soleil. En réalité, la terre et la lune tournent autour d'un centre commun, et ce couple, à centre unique, tourne avec le soleil autour d'un autre centre commun, mais il faut pour voir cela inclure toutes les planètes du système solaire, ce qui se révèle complexe. Les mouvements du dit système solaire sont fonction d'un grand nombre d'autres objets, comme la galaxie. Et si à ce stade on se demande à quoi ressemble réellement le mouvement de la Terre vu du centre de l'univers tout entier, la seule réponse possible est « il ne ressemble à rien, car il n'y a pas de centre ».
Il y a deux idées très importantes dans le passage qui vient d'être lu par Garance Roubieux, donc qui est extrait de la traduction française « Comment torpiller l'écriture des femmes » de Joanna Russ pour les éditions Zone, que vous traduisez, Cécile Hermelin, et que vous préfacez, Elisabeth Lebovissier, que nous discutons aujourd'hui dans le Book Club de France Culture. L'idée que c'est un cauchemar, qu'en réalité on n'efface pas juste pour effacer l'écriture des femmes, on efface parce qu'elle menace quelque chose. Elle menace deux choses, écriture des femmes slash écriture minoritaire slash écriture noire slash écriture chicano qu'on entendait là. Elle menace la question d'un centre unique, donc ça ce serait le deuxième temps de sa démonstration quand elle fait appel au système solaire, mais c'est très lié avec le fait qu'elle menace aussi tout ce que l'on peut cacher tant qu'elle n'écrive pas. Tant qu'ils, elles n'écrivent pas. Elles menacent ce qui est silencié de l'expérience de vie des hommes, de l'expérience de vie des Blancs, de l'expérience de vie des riches, le sous-sol, d'une certaine manière.
Mais, finalement, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'elle est là en train de reprendre ou de prendre ce qu'aujourd'hui on articule comme la séparation de l'homme et de l'artiste et de l'œuvre, hein. Tout d'un coup, là, ça revient très fort. C'est-à-dire que tout ce que MeToo est en train d'articuler aujourd'hui, finalement, elle s'en approche. Mmh. Hein. Je trouve ça très très intéressant. C'est quand même l'autonomie de l'œuvre, enfin sa centralité et son autonomie finalement qui est
la décontextualisation.
Et voilà. Et donc qu'est-ce qu'elle est en train de dire, hein. Elle est en train de dire que finalement le canon, la norme, c'est effectivement cette autonomie de l'auteur et autonomie de l'œuvre, et ce contact impossible qui est proposé par la norme. Et que finalement, le sous-sol, eh ben c'est bien ça, c'est donc le contexte, hein, et c'est donc effectivement tout ce lien qu'on peut faire entre la vitalité de l'œuvre et sa vie.
Mais donc ne pas vouloir entendre ou vouloir même, parce que d'ailleurs le titre anglais c'était carrément supprimé, non, hein, voilà. Oui. Donc c'est vraiment ne pas vouloir entendre certaines voix, c'est vouloir continuer d'exercer une domination littéraire et en fait générale sans être dérangé par ce qui remettrait en cause cette domination.
Voilà. Bah c'est ça un système, non? C'est ça la violence systémique, hein, et on s'aperçoit que vraiment le monde littéraire est une sorte d'exemple, de paradigme du monde en général et des structures sociales telles qu'elles sont proposées encore aujourd'hui, finalement. C'est assez hallucinant de vous entendre le dire comme ça. Bah, effectivement, on s'aperçoit de l'actualité et de la pertinence de ce travail.
Et alors, il y a quelque chose de vicieux qu'elle met à jour très fortement, Joanna Russ, c'est qu'elle dit le monde littéraire n'est pas là. Je reprends ce que vous venez de dire à l'instant, Elisabeth Lebovissier, c'est pas là que pour refléter le monde. Ça produit des mondes, ça façonne des mondes. Et une fois qu'on a empêché les femmes d'écrire, on en revient, peut-être on va pas jusqu'au bout de son autocritique quand elle dit qu'elle ne pense pas suffisamment à la question de la classe sociale, la question raciale, etc. Mais bon, prenons le texte comme il est en 83. C'est que les femmes n'écrivant pas, elles ne peuvent pas se retrouver réelles dans les expériences décrites par la littérature. Par conséquent, elles n'ont pas de modèle fin, de modèle complexe à s'approprier dans la littérature. Et du coup, leur vie, de la même manière, ne peut pas s'enrichir de la complexité de ce qu'elle pourrait trouver dans la littérature. Et du coup, c'est infini, c'est horrible.
C'est-à-dire qu'on pourrait se demander comment elle pourrait avoir accès à cet espace imaginaire,
ouais,
hein, que la littérature devrait proposer, finalement.
L'autre conséquence de cet effacement, c'est l'idée que il n'y a pas de modèle. Alors, il n'y a pas de modèle à la fois pour se voir proposer des miroirs complexes et réels dans la littérature, mais il n'y a pas non plus de modèle de femme écrivante. On va écouter la voix d'une personne importante dans le travail de Joanna Russ, c'est Octavia E. Butler. C'est en 2005, c'est quelques mois avant sa mort.
Quand j'ai commencé, il y avait un autre auteur afro-américain, Samuel Delaney, et c'était l'un de mes professeurs. Un jour, on participait à une table ronde dans une bibliothèque. Et quelqu'un nous a demandé, vous êtes combien à faire ça? Nous nous sommes regardés et nous avons répondu que nous représentions les deux tiers. Il y avait un autre homme noir au Canada qui écrivait. Il a pris depuis une autre direction. Les choses vont mieux aujourd'hui, mais il fut un temps où on n'était vraiment pas nombreux. Je pense que c'est en partie parce que les gens imitent ce que font d'autres personnes. J'ai eu une étudiante qui est venue me voir il y a de ça plusieurs années à l'Université du Michigan. C'était une jeune femme noire. Elle m'a dit, j'ai toujours aimé la science-fiction, j'ai toujours voulu en écrire, mais je ne pensais pas que nous pouvions le faire. Elle avait peur, si elle se mettait à écrire, de ne rencontrer que des portes fermées. Et la vie est courte, alors parfois les gens ne veulent pas prendre le risque de se heurter à des portes fermées.
C'est la voix de Octavia E. Butler, écrivaine de science-fiction féministe afro-américaine en 2005, qui décrit les impacts concrets de n'avoir pas de modèle littéraire. Joanna Russ pense aussi la façon dont les femmes et autres voix littéraires marginalisées réagissent ou répondent. Il y a quoi comme tactique de réponse à ce processus d'effacement, Elisabeth Lebovici?
La citation, peut-être. Ce qui est quand même très, très beau dans les... Bon, j'étais un peu sonnée par Octavia Butler. C'est toujours magnifique de l'entendre. Mais dans la pratique, il y a quelque chose d'une... Il faut une intertextualité féminine. Et ça, des langues, finalement, des femmes écrivains, écrivaines. Il y a quelque chose d'absolument magnifique, je trouve, qu'elle fait dans ce livre... comme dans ses fictions, parce qu'elle le fait aussi dans ses fictions, c'est de se faire connaître, finalement. Elle présente, hein, comme une... Voilà, elle fait les présentations entre des autrices du 19e et des autrices du 20e siècle, entre... Voilà. Et elle crée ce que Adrienne Rich appelle un continuum lesbien, c'est-à-dire l'idée d'une sorte de flux dans lequel toutes les femmes, lesbiennes ou pas, peuvent...
S'inscrire.
Voilà.
C'est-à-dire qu'à rebours de l'idée qu'il n'y aurait pas d'héritage littéraire, qu'il n'y aurait pas d'histoire construite aussi forte que l'autre histoire, elle l'a fait, en fait.
Elle l'a fait. Et elle l'a fait tout simplement en inscrivant des liens entre toutes ces femmes. Et en créant des personnages qui peuvent être d'ailleurs ces femmes et qui rencontrent d'autres. C'est presque des hétéronymes. Enfin, tout d'un coup, il y a l'idée qu'on peut se faire rencontrer des femmes. Et c'est extraordinaire parce que du coup, ça crée une histoire qui est absolument pas chronologique. Donc c'est s'insérer dans une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire hétéro-masculine, patriarcale.
Telle qu'elle est écrite par ailleurs.
Oui, voilà. Et tout d'un coup, ces rencontres les mettent au présent, en plus. Et donc là, il y a quelque chose dans quoi on peut s'inscrire et dont on peut s'inspirer.
Et justement, je voudrais, on n'a pas le temps de rentrer dans cette considération-là, mais qui est vraiment du côté de la critique littéraire de Joanna Russ. Et j'aime beaucoup la manière dont elle rentre précisément dans la matière littéraire et dont elle montre que peut-être en réponse avec cet effacement-là, il y a eu des tactiques littéraires, il y a eu des manières d'écrire des textes. En réponse aussi à des contextes d'écriture, il y a eu des manières de tisser des textes. Et elle montre qu'il y a des formes littéraires qui sont nées de ces contextes, et des formes qui seraient peut-être parfois moins longues, moins vociférantes, moins efficaces, plus éparpillées, et elle valorise ces formes-là. C'est très beau la manière dont elle, au lieu de simplement dire, regardez ces textes, ils ont été critiqués parce qu'ils n'avaient pas cette forme-là du gros roman efficace qui parle haut et fort, ils avaient d'autres formes.
Voilà, la forme du réseau, d'un certain point de vue. La forme du rhizome ou du réseau, c'est-à-dire pas de centralité, pas de grands artistes. Hein, il n'y a pas le grand et puis le petit, justement, c'est fini. Et bon, ben voilà. Et ça, je trouve que il y a matière à faire. En tout cas, pour l'histoire de l'art, je crois que c'est ce que les jeunes historiennes d'art essayent de faire, c'est d'essayer de montrer cette intertextualité entre des femmes artistes, et c'est ce que Joanna Russ a tenté de faire dans son livre.
On a presque déjà répondu à la question de Simon, mais on l'écoute quand même. Auditeur du Book Club, il a lu Joanna Russ.
Bonjour le Book Club. Ce dont parle Joanna Russ dans le livre fait encore l'actualité dans le monde littéraire aujourd'hui, que ce soit pour les femmes, pour les personnes queer ou racisées. Est-ce que le travail de Joanna Russ a abouti à quelque chose? Merci pour votre réponse.
Elisabeth Lebovici?
Il est là. Donc,
il est traduit.
Voilà, oui, donc il a abouti à quelque chose.
Il a abouti à ce qu'on lise.
Oui,
C'est un outil, on pourrait dire ça, d'une certaine manière, Cécile Hermelin.
Je pense qu'il aboutit, oui, notamment 40 ans plus tard. Alors, pour moi, notamment, personnellement, il aboutit à ce que je me remette à lire des grands classiques féminins de la littérature anglophone que j'avais pas lu parce que je pensais que c'était pas forcément nécessaire.
Oui, on a peu parlé de la constitution du canon littéraire, mais voilà. C'est une des choses qui fonde sa démonstration. Ouais. Changer ce qui fait l'histoire dominante et on va dire institutionnelle de la littérature.
Et surtout, je reviens sur ce que disait Simon au début. Il aboutit aussi à changer le regard et elle en parle elle-même. Justement, on parlait de la marge du centre, au fait qu'elle n'était pas au centre. En fait, à la fin, elle dit quand même qu'elle-même était au centre d'un continuum de femmes qui écrivent blanches et qu'elle a, en étant dans ce centre-là, mis à la marge tout un tas d'autres femmes qui écrivent noires, chicano, etc. Et du coup, elle change de regard, notamment, elle prend l'exemple de Zora Neale Hurston et donc elle lit avant s'être documentée un peu sur sur l'écriture afro-américaine et après avoir lu beaucoup d'ouvrages critiques, elle relit le même livre de Zora Neale Hurston et son regard change. Et je trouve que c'est ça qui est super intéressant quand on lit Joanna Russ, je pense dans les années 80 comme aujourd'hui, mais c'est bien que ça soit sorti maintenant ici aussi, c'est que ça permet de relire avec un regard complètement différent et une appréciation complètement différente.
Et puis peut-être d'envisager, ça c'est toujours passionnant et pertinent, d'envisager des dominations qui sont décrites ici comme des structures, comme des systèmes d'une domination vers une marginalisation ou vers et puis de le décaler et de voir comment cette structure, ce système-là marche pour d'autres dominations. Et c'est là où finalement quand elle dit travail à poursuivre, à nous de le faire.
Et c'est très important, enfin je crois qu'il faut renverser la proposition, la question que vous posiez, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on peut lire Joanna Russ. Moi, quand je l'ai lu la première fois, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même il y a assez longtemps, j'ai trouvé le livre assez étouffant. Je n'en pouvais plus.
Il faut un peu accepter, en effet, que ce soit foisonnant comme ça.
Oui, c'était un peu étouffant.
Ouais, ouais.
Aujourd'hui, c'est vrai que je ne le lis pas tout à fait de la même façon, parce que je pense que le regard d'aujourd'hui, qui est nourri de tout ce qui se passe aujourd'hui, permet effectivement de le lire plus finement.
Et peut-être plus, oui, on a plus de capacité à se promener dans ce texte-là. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme chaque mardi, c'est l'heure de retrouver Mathilde Wagman qui nous parle de littérature pour la jeunesse à ce micro chaque semaine. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Vous êtes loin aujourd'hui Mathilde. Ouais, vous nous souhaitez émettre une hypothèse, j'adore.
Oui Marie, je vais émettre une hypothèse. Dans le tout début du célèbre entretien filmé qu'il accorda à Régis Debray, diffusé pour la première fois dans l'émission Océanique sur France 3 en mai 1992, un mois avant sa mort, le critique de cinéma Serge Danet, interrogé sur les images qui ont compté pour lui dans l'enfance, parlait de sa passion pour les cartes de géographie. L'image qui a regardé mon enfance, disait-il, ce n'est pas une image de cinéma, c'est la carte du monde. Celle qui était accrochée chez lui, celle qu'on lui montrait à l'école, celle qu'il trouva dans les atlas ensuite, livres pour lesquels il eut une passion toute sa vie. La carte du monde en tant que promesse, la carte en tant qu'elle n'est pas le territoire, mais y ressemble tout de même lorsque l'on prend l'avion pour la première fois par exemple et que l'on voit le monde vu d'en haut. Ailleurs, il dit aussi qu'il ne lui serait jamais venu à l'idée de se rendre dans un pays si le nom de ce dernier n'avait figuré sur une carte de géographie, développant cette idée magnifique que l'on voyage pour vérifier quelque chose, vérifier l'immatérialité de la frontière ou l'arbitraire du signe qu'est le nom de lieu. Danet parlait de l'importance de cette image pour lui, gamin des quartiers populaires né à Paris en 1944, mais je me risquerais aujourd'hui à généraliser en disant que la carte de géographie est l'image qui regarde nos enfances à nous toutes et tous, et que par conséquent le livre d'images pour enfants par excellence, celui qui nous parle de la manière la plus sensible, celui qu'il faudrait élire s'il ne fallait en retenir qu'un pour l'emmener sur une île déserte, ce serait l'Atlas. L'occasion d'éprouver cette hypothèse m'est donnée par la parution toute récente de l'édition Revue et Augmentée d'un album sobrement intitulé Cartes au pluriel, sous-titre Voyage parmi mille curiosités et merveilles du monde. Un livre de grand format signé d'un couple de graphistes polonais, Aleksandra Mijilinska et Daniel Mijilinski. Paru pour la première première fois en Pologne en 2012. Il a été depuis traduit dans une trentaine de pays. S'est vendu à quelque 5 millions d'exemplaires dans le monde, dont 100 000 en France, où il est édité par les éditions Rue du Monde, dans une traduction du polonais, signée Lydia Valeryczak.
Alors, à quoi ressemble ce livre, Mathilde, et peut-être comment il fonctionne ?
Son principe est très simple. Après avoir fait figurer sur la page de garde une grande carte du monde en guise de sommaire, l'ouvrage se découpe en 5 sections, une pour chaque continent, au sein de laquelle nous est proposée une suite de cartes illustrées, pays par pays. 70 pays en tout pour cette nouvelle édition, où figurent pour la première fois le Venezuela, la Bulgarie, l'Indonésie, le Nigeria, la Serbie et la Slovénie. La particularité de ces cartes est d'offrir, en plus de mentions géographiques telles que le nom des principales villes et chaînes de montagnes, des cours d'eau et des océans, en plus du rappel du drapeau du pays, des langues parlées, de la superficie et du nombre d'habitants, un choix subjectif d'images illustrant des faits culturels ou ayant trait à la faune et à la flore du territoire en question, figurées par de petites vignettes au graphisme ravissant. Ainsi, et pour prendre des exemples piochés parmi les pays qui figurent pour la première fois dans le livre, on peut, grâce à cette nouvelle édition, promener nos doigts et nos yeux en Bulgarie, depuis Sofia, la capitale, à la frontière occidentale du pays, et l'architecture de sa cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski, jusqu'à l'extrémité orientale et les thermes romains, près de la station balnéaire de Varna, face à la mer Noire. On observera, en regardant la carte de l'Indonésie, l'enchevêtrement des îles qui la composent, on apprendra que l'orang-outan de Sumatra n'a pas tout à fait la même allure que celui de Bornéo ou les détails d'un très bel instrument en bambou qui s'appelle l'anklung. Si l'on poursuit la lecture jusqu'à la double page figurant le Nigeria, on apprendra qu'Abuja, sa capitale, se trouve au centre d'un pays qui compte 203 millions d'habitants et où sont parlés l'anglais, l'ibo, le yoruba, le haoussa et bien d'autres langues. On découvrira que c'est le pays de l'enseignante et militante pour les droits des femmes Funmilayo Ransome-Kuti, qu'on peut y croiser des animaux aussi magnifiques que le tour géant, et l'on admirera la spectaculaire porte du palais de l'émir à Zaria. Je m'arrête là, Marie, il faudrait des heures pour décrire carte par carte les mille et une richesses dessinées le long de ces territoires. Si la carte est, on le sait, un outil scientifique autant que politique, l'approche du couple Mijilinche est de nous proposer un échantillon de richesses naturelles et culturelles à découvrir au présent. C'est émouvant de promener aujourd'hui ses yeux en Ukraine, de Kiev à Mariupol et de Lviv à Louhansk, comme il est émouvant de songer que les auteurs du livre, nés en Pologne en 1982, ont grandi dans un territoire dont les frontières étaient fermées et qu'ils ont vu s'ouvrir. Le choix des pays représentés est subjectif, lui aussi, et incomplet, bien sûr, 70 sur les plus de 190 États que compte le globe, mais l'ensemble développe cette extraordinaire faculté à se projeter, par les yeux et par l'imaginaire, dans un ailleurs que l'on peut appeler le monde ou la littérature. Les vacances scolaires commencent à la fin de la semaine. Rappelons que les livres ont aussi ce pouvoir magique là, qui consiste à nous faire voyager, y compris lorsqu'on ne peut pas partir. L'Atlas est à ce titre aussi, sans doute le plus magique d'entre tous.
Merci beaucoup tout le monde à la bibliothèque. Merci infiniment Mathilde Wagman. Lecture jeunesse sur franceculture.fr. On propose à nos auditeurs et auditrices dans le Book Club de chercher des évocations musicales dans leur lecture. On peut jouer avec nous en nous écrivant via le mail lebookclub@radiofrance.com. C'est Eve qui nous écrit. Elle nous propose un extrait d'un texte de Dorothy Allison. C'est pas complètement sans écho avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui du texte de Joanna Russ. Ça s'appelle Peau à propos de sexe, de classe et de littérature. En fin d'après-midi, tous les murs étaient abattus. Et tout le monde ramassait les clous qui traînaient ou sortaient les derniers gravats dans la rue. Je me tenais à la fenêtre, de derrière, et je regardais toutes ces goudous porter de lourdes caisses en reprenant My Girl qui passait à la radio. En me retournant, je pouvais voir Bruce et Allen, les doigts de pied en éventail, en train de boire du thé et de discuter avidement des derniers bouquins à la mode. « Vous avez fini les mecs ?» ai-je lancé. Allen a rigolé et fait un mouvement de poignet. « Oh non, non, chérie, on perpétue le stéréotype. » Bruce a tendu le bras et attrapé le petit doigt d'Allen. « Oh Mary, quel muscle !» Ils ont éclaté de rire et se sont resservis du thé glacé. I've got the month of May.
girl, talking about my girl. I've got so much loving, all the bees in the me.
Je peux pas diffuser cette chanson sans dire que je la dédicace à mes deux filles. Voilà, c'est comme ça. C'est mes girls. Je sais que je l'ai déjà fait. Vivien m'a dit tu l'as déjà fait la dernière fois, mais donc à chaque fois qu'il y aura Otis Redding et My Girl, je dirais je les dédicace à mes deux filles. Comment torpiller l'écriture des femmes aux éditions Zone, préfacée par Elisabeth Lebovici. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et traduit de l'anglais par Cécile Hermelin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au son aujourd'hui. C'était Ludovic Auger et à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe dont Garance Roubieux aujourd'hui pour poursuivre la conversation, et Dieu sait qu'il faut la poursuivre. Rendez-vous sur le compte Instagram du Book Club animé par Alexandre Alaibegovitch.